Une fois par mois, notre poignée d'experts décrypte l'actualité du catch juste avant chaque pay-per-view WWE sur Radio Kawa. Partagez vos réactions sur Twitter au hashtag CNSTP. Catch nous si tu peux.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le 8e numéro de Catch nous si tu peux. C'est avec grand plaisir d'être une fois de plus avec deux Strasbourgeois et un arabe dans cette émission. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec vous. SummerSlam, ça commence dans 2h10 et non pas à 2h10, pardon, puisque ça commence à 1h10. Donc si vous n'avez pas tout compris, ça commence à 1h10. Donc cette nuit sur AB1 avec Philippe Chiro et Christophe Ajus qui sont actuellement à Brooklyn. Ils seront peut-être, on ne sait pas encore, ringside pour SummerSlam. Donc, le premier invité qui est avec nous ce soir, vous le connaissez puisque il remplace de temps en temps soit Christophe Ajus, soit Philippe Chiro aux commentaires de la WWE, que ce soit sur RTL 9 ou sur AB1. Il s'agit d'Alain Ichtert. Bonsoir Ichto.
Bonsoir Nadir, salut à tous. Très très heureux de vous rejoindre encore une fois pour Catch nous si tu peux. Visiblement la première émission s'était bien passée, donc c'est avec un plaisir et une joie ineffable que je me rejoins à vous pour ce fabuleux Catch nous si tu peux spécial SummerSlam.
Alors ineffable, allez tous sur Wikipédia pour voir ce que ça veut dire, puisque malgré mon langage qui est composé de 50 mots dont 48 de mots vulgaires, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc allez tous sur Wikipédia. Bonsoir cher Ichto, ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec nous. Réagissez les amis sur le hashtag CNSTP pour Catch nous si tu peux. Comme vous le savez, le deuxième invité, vous le connaissez aussi, il est un petit peu moins, on va dire, connu que Ichto. Mais bon, les grands fans de catch le connaissent en France puisque c'est une légende. Il a fait partie du top 5 des meilleurs catcheurs français. Il a même fait partie du top 1 une fois. selon notre ami Booster, il s'agit de Colby. Salut Colby.
Salut Nadir, salut Ichto, salut à tous.
Ça
et
va?
Et puis à l'instar d'Ichto qui vient de le dire, merci de m'accueillir pour cette deuxième émission consécutive en espérant qu'il y en aura encore 74.
Eh bien on l'espère, parce que comme vous le savez, c'est chaque mois avant chaque pay-per-view, ça c'est le kick-off. C'est un des seuls kick-off qu'on a en français. Donc, et en plus, autour de la table, on a des belles personnes. On a Colby, on a Ichto. Donc là, c'est du kick-off de qualité et c'est un des seuls qu'on a en français, si ce n'est le seul. Faut que je fasse un petit peu mon étude de marché pour voir ce qui se passe aux alentours. Comme vous le savez, les amis, on va commencer par les news. La première nouvelle, c'est une nouvelle un petit peu difficile puisqu'il s'agit de suspension. À la WWE, ça a été annoncé un petit peu plus tôt cette semaine. Alberto Del Rio, Paige, Eva Marie ont tous été suspendus pendant 30 jours. 30 jours pourquoi ? Puisque, on le rappelle pour vous, chers auditeurs, lorsque la WWE, j'en perds mon articulation, vous fait passer des tests sanguins pour voir si vous avez tout simplement des substances illicites dans la politique bien-être de la WWE. Si vous échouez une première fois, vous êtes suspendu 30 jours. Une deuxième fois, 60 jours. Et si vous êtes pris une troisième fois, on vous indique la porte de la compta pour signer votre solde de tout compte. Donc là, ce sont ces trois personnes-là, Alberto Del Rio et sa petite copine, Paige, Eva Marie, qui ont été toutes les trois suspendues. Il y a d'autres personnes. Alors, ça, ce sont des rumeurs. Il y en aurait encore 10 autres qui seraient un petit peu dans le collimateur, qui risqueraient d'être aussi suspendus. On aura les communiqués sans doute après SummerSlam. Est-ce que vous, les amis, vous avez des choses, des réactions, vous savez quelles sont les substances que ces trois personnes ont pu prendre, ou bien est-ce que vous en fichez totalement royalement?
Alors, je vais peut-être répondre en premier. Moi, ça m'a fait bizarre de voir deux noms de divas, enfin de catcheuses plutôt. Maintenant, il faut dire catcheuses dans la liste. Je pense que c'était une des premières fois que on avait vu qu'on voyait deux divas suspendues pour la suspension pour usage de stupéfiants ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais tendance à dire que c'est surtout dommage pour Eva Marie, parce que contrairement à énormément de monde, je suis un grand fan d'Eva Marie depuis qu'elle a débuté à SmackDown. Je trouve que sa gimmick est géniale. Je ne catcherai pas. Je catch si vous voulez. Je l'ai trouvé géniale, Eva Marie. C'était un très très mauvais moment pour elle, pour se faire prendre la main dans le sac, si je puis m'exprimer ainsi. Et son absence tout à l'heure à SummerSlam va se faire sentir. Et j'aimais beaucoup Eva Marie, et je trouve ça très très dommage. Et c'est également dommage pour Alberto Del Rio, qui était reparti sur des bonnes bases depuis le split et c'est fortement dommage pour Albert de la Rivière aussi.
Albert de la Rivière, c'est vrai qu'Eva Marie normalement aurait dû combattre. Elle aurait dû combattre ce soir dans le match kick-off. Bah, le match kick-off aux États-Unis qui commence à minuit aux États-Unis, donc dans quelques minutes, les amis, elle aurait dû faire ses débuts dans le ring ou presque pour une fois. Donc c'est vraiment dommage. Surtout que la WWE a annoncé sa suspension après avoir annoncé le match à SummerSlam, alors qu'ils étaient au courant avant même de faire l'annonce de match à SummerSlam. Vous avez compris ? Ils savaient qu'ils allaient la suspendre, mais ils l'ont quand même mis dans un match à SummerSlam. Bref, c'était pour noyer le poisson. Colby, est-ce que tu as une réaction par rapport à tout ça ?
Bah, je viens de te demander déjà, qu'est-ce que tu en sais ? Qui savait déjà qu'ils allaient la suspendre avant d'annoncer le match ?
Parce que je suis très très bien renseigné, je me suis renseigné sur des sites très pointus du catch américain.
Ok, et, donc t'en sais rien en fait. D'accord, d'accord, je vois. Colby, la réaction, Eva Marie, oui, c'est un petit peu dommage. Paige, je sais pas trop quoi dire. Alberto... Je sais pas trop quoi dire non plus. Il a pas vraiment. Enfin, je trouvais pas que sa carrière avait repris du poil de la bête. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas que les hommes qui sont contraints, parce que malgré tout, c'est très. C'est un. Comment dirais-je, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un rythme vraiment très très difficile, donc il n'y a pas que les hommes qui sont entre guillemets contraints de prendre des produits pour de temps en temps un petit peu se filer un coup de boost. Là en l'occurrence c'était un produit qui s'appelle l'Adderall, donc c'est un dérivé d'amphétamine, donc c'est un petit peu pour se donner du peps. Donc c'est pas un stéroïde ou du clenbutrol pour les personnes qui veulent sécher, ce qui pourrait intéresser les divas pour rester toujours bien fit. Donc voilà.
Bien fit signifie pour tous ceux qui ne parlent pas anglais être en forme.
Ah oui, oui, oui. Ou ressembler à Finlay, mais bon, ça c'est pas grave.
Voilà, les jeux de mots toujours. Le premier jeu de mots de ce soir, il démarre sur les chapeaux de roue, Colby. Fit Finlay. Voilà, référence du catch années 90.
En forme Finlay. Voilà. Donc voilà, au moins ça aura le mérite peut-être d'éveiller certaines consciences sur l'unisexualité des dépendances.
Très bien, ben on va c'est sur ces c'est
et
sur
si ce phrase qu'on va juste arrêter ce. Si je peux juste me permettre de rajouter oui, quelque chose, Nadir, par rapport à Alberto Del Rio, je trouvais également qu'il ne servait pas à grand-chose depuis qu'il était revenu, jusqu'à Money in the Bank, où je l'ai trouvé absolument merveilleux dans le match de l'échelle. Je savais pas trop ce qu'il faisait dedans, et puis je l'ai trouvé très très bon, et très en jambe, très... Je trouvais que Alberto Del Rio était très très bon lors du match de l'échelle du Money in the Bank et c'est fortement dommage, ça lui coupe un petit peu les ailes.
C'est vrai, il faut aussi savoir que depuis ben, tout simplement le split entre Alberto Del Rio et la direction de la WWE, ça ne se passe pas très bien. Pourquoi ? Puisque Alberto Del Rio a tout simplement crié au scandale. Il sort avec Paige, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas lu le closer du catch, pour tous ceux qui ne sont pas dans les petits papiers, Alberto et Paige sont ensemble. Paige est à Raw, Alberto est à SmackDown, ce qui fait que tous les deux ont des emplois du temps totalement différents et ne peuvent plus se voir aussi fréquemment qu'avant. Comme tout couple relativement nouveau, on aime passer du temps avec sa nouvelle partenaire pour des choses qui les regardent. Donc il y a ça, il y a aussi son booking qu'il a mis en cause. Là, avec cette suspension de 30 jours. Il risque pas de revenir en main eventer, il risque pas de revenir en haut de l'affiche. Et on le sait, Alberto Del Rio peut partir de la WWE un petit peu comme il le veut, puisqu'il sait qu'en quittant cette fédération, il pourra trouver du travail n'importe quand et à très très bon salaire. Donc faut voir ce que ça va donner. Sur les 10 prochains catcheurs qui risquent d'être suspendus, ça ce sont des rumeurs, qui vous voyez être suspendu? Que ce soit Raw à SmackDown, qui risque d'être suspendu selon vous?
Qu'est-ce que c'est que cette question?
Je n'osais pas le dire, ouais, mais je ne sais pas trop quoi répondre.
À la tête du client, vous voyez qui pourrait être plus suspendu que d'autres?
Bah honnêtement non quoi, tous.
Non.
Tous. Ouais bon après c'est.
Je sais pas, ouais. Est-ce que vous voyez Cena se faire suspendre par exemple?
Non parce qu'il a pas un contrat de catcheur, il a un contrat de office worker donc il n'est pas contrôlé.
Ah et ça c'est à savoir, Colby nous l'apprend. John Cena. Et en fait, c'est un petit peu le cadre des bureaux, donc il n'a pas un contrat de catcheur, donc il ne peut pas être suspendu. Puisqu'il ne peut pas être contrôlé.
C'est la même chose que Lesnar, qui n'a pas un contrat de catcheur. Il est, je sais pas quel est le terme, mais voilà, c'est aussi pour ça que Lesnar ne sera pas contrôlé par la WWE. WWE, pardon.
Ça, c'est très bon à savoir. Donc, au niveau des spéculations, on ne va pas en faire. On va attendre ce qui va se passer d'ici les prochains jours. On va voir si, justement, ça va être un petit peu le jackpot des suspensions. En tout cas, tout ça n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en 2007. Pour tous ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a Edge, John Morrison, William Regal, Chavo Guerrero, Gregory Helms qui ont tous été suspendus en même temps. Donc voilà, peut-être il va se passer exactement la même chose. La première nouvelle, qui veut en parler? Alors, soit ça va être Colby, soit ça va être Ishtou.
Je pense que ça va être Ishtou.
Ça va être Ishtou. Bah, Ishtou, vas-y, tu vas nous en parler. C'est Vince McMahon qui est toujours plus riche de jour en jour.
Alors effectivement, Vince McMahon a vendu aujourd'hui 1,547 millions d'actions de la WWE pour planifier sa cession. Le prix n'a pas été révélé, comme l'action a clôturé à $20.97 ce soir. Si on se base sur ce prix,
donc ça fait combien? 1,5 million fois 20,97 millions, ça fait combien en tout?
Ça fait 32,44 millions de dollars dans la popoche.
Mais vous êtes, Ishtou, tu es vraiment une calculatrice sur pattes, hein.
Eh ouais, mais ça c'est mon côté Bertrand Renard, ça.
Bertrand Renard, et on salue aussi Ariel Boulin-Prat qui nous regarde ou qui nous écoute.
Je pense que même qu'elle nous regarde, hein, ça c'est pas impossible qu'elle nous regarde. En tout cas, sachez les amis que ce n'est pas la première vente de l'année, car en mai, très récemment, Vince avait déjà vendu 2,19 millions d'actions pour $16.50 l'action.
Et ça fait combien, 2,19 fois 16,50?
36,2.
Ouais.
Ah là là là, ça se voit qu'on a eu affaire à des personnes qui sortent d'écoles de commerce. Donc en définitive, Vince est toujours de plus en plus riche. En tout cas, il prépare des liquidités, il vend des actions et pour récupérer du cash. Donc peut-être il veut investir ou préparer sa succession. Moi, je pense que c'est plus ça. Est-ce que vous voulez revenir dessus ou on passe directement à la prochaine nouvelle?
Non, je pense qu'on peut.
Je pense qu'on s'en fiche un petit peu de. C'est qu'on n'a rien à ajouter. Nos salaires sont très loin de ça et nos actions sont très loin de ça.
Bah, effectivement, nos salaires sont loin de ça, mais par contre, planifier la succession de Vince McMahon, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Vince est quand même en place depuis je sais pas combien de temps, et qui sera l'élu ou l'élu eux, ça c'est peut-être un débat qui serait intéressant de soulever, mais c'est vrai que par rapport à ce que Vince s'est mis dans la poche, il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est que Vince est toujours plus riche.
Eh ben c'est super. Eh ben en tout cas, on salue Vince, toujours lui. Si il nous écoute, eh bien il y a des contrats ici que tu peux proposer quand tu en as envie. La prochaine nouvelle, c'est toujours toi, notre ami Ishtou qui va nous en parler. Il s'agit de MVP, de Shelton, enfin bref, des stars de la WWE de fin année 2000 qui risqueraient ou non de revenir à la fédération de Stamford.
Alors, on a appris de sources quasi sûres que MVP ne reviendra pas à la WWE. C'est un nom qu'on entendait énormément dans les rumeurs depuis qu'il y avait le brand extension, enfin l'extension de la fédération, en fait, la séparation de Raw et SmackDown. On sait déjà que Shelton Benjamin, Ginger Mahal, Kurt Hawkins aussi d'ailleurs reviennent à la fédération. Et aussi, ça je voudrais vous en parler, la WWE a récemment publié sur son site internet, une liste des top free agents, les agents libres qui étaient disponibles. Donc pêle-mêle, ils ont mis The Rock, The Undertaker, Nikki Bella, Mickie James, Tajiri, The Great Khali, D. Brian Kendrick, Carlito, Crime Times ou encore Bayley. Donc messieurs, moi je voudrais un petit peu parler de cette liste de top free agents. Qui serait intéressant
Agent, pour ceux qui ne parlent pas anglais une fois de plus. Ici, en fait, dans Catch Too, si tu peux, c'est mi-catch, mi-cours d'anglais. C'est ça la vraie force.
Oui, mais c'est vrai. C'est
la vraie force de cette émission. Free agent, c'est quelqu'un qui est ni à Raw ni à SmackDown. Donc qui est libre comme l'air. Voilà.
Exactement. Donc alors Shelton, Ginger Mahal, on l'a vu récemment à Raw. Ginger Mahal a rejoint le brand de Raw. Shelton Benjamin annoncé à SmackDown, mais blessé, ça je sais pas, vous l'avez peut-être
tous
entendu.
Il devait revenir, en fait, la WWE avait annoncé Shelton reviendra la semaine prochaine, Shelton reviendra dans 2 semaines, etc. etc. Et en fait, ils l'ont fait passer les visites médicales et le mec est blessé, il peut pas catcher pendant 6 mois. Ça c'est une grosse faute de communication de la WWE, faut le savoir. Parce que en général, tu ne peux pas te permettre d'annoncer, de faire des segments télévisés pour quelqu'un, alors que tu sais pas s'il est apte à catcher ou non. Donc ça, c'est très très... Je pense que la WWE, maintenant, s'en mord les doigts. Pour revenir à ta question, cher Ishtou, Je pense que si on a du Chad Jiri, si on a du Brian Kendrick ou du Carlito, je pense que ça va aller directement à Raw. Non, Carlito peut-être à SmackDown, Kendrick et Tajiri à Raw, pour la simple et bonne raison qu'il y a tout simplement la Cruiserweight Division, la division des poids légers qui arrive à Raw très bientôt, et je pense que ce sont de très très belles additions du côté de Raw. Autre élément, on pourrait aussi mettre Tajiri, il me semble qu'il a été en équipe avec le Big Show à une époque.
Exactement.
Donc éventuellement refonder une équipe pour jouer la carte nostalgie qui est toujours très très vendeuse. Carlito a été un méchant très très fort. Il a été excellent durant ses années à SmackDown. Crime Time, je pense qu'ils reviendront pas. Et voilà. Après, du côté de Jinder Mahal, on sait qu'il est revenu à Raw, mais en vrai, je pense qu'il va pas rester très longtemps. Je pense qu'il va rester 2 mois. Parce que déjà, perdre aussi rapidement contre je ne sais plus qui, ça sent pas bon signe. Les réactions, elles sont très faibles. Il aurait été judicieux de le faire revenir en le mettant en équipe tout simplement avec notre ami le rouquin, son nom c'est...
Sami Zayn.
Pardon ?
Sami Zayn.
Non, pas du tout, son pote le rouquin.
Sami Zayn.
Slater, bien sûr. Ah. Eh oui.
Oui.
Donc voilà, donc faut voir. Toi, de ton côté, Colby, qu'est-ce que tu en penses ?
D'habitude, quand la WWE publie des listes comme ça, c'est pour faire parler un petit peu et détourner l'attention. Et les noms, les free agents qui vont finalement vraiment être captés par la WWE en général ne sont pas dans la liste que Ishtou vient d'énumérer. Donc Rock, Undertaker, bon, eux de toute façon je pense qu'ils sont éternellement voués, pardon, à du one shot, donc des apparitions ponctuelles. Nikki Bella, il me semble que tu l'avais dit donc en troisième. Elle, si je ne m'abuse, elle vient d'être validée par les médecins suite à son opération au coude il y a 6 mois, donc elle va à nouveau aller au Performance Center pour s'entraîner. Donc elle, de toute façon, je pense aussi qu'elle a vocation à revenir dans un des deux rosters principaux. Mickie James, Tajiri, Great Khali. Alors Great Khali, je sais pas trop, hein, parce que d'abord j'aimerais bien savoir dans quel état physique il est aujourd'hui, parce que si Shelton peut pas catcher, je pense que le Great Khali, je suis pas sûr qu'il passe les tests médicaux non plus, quoi.
Ouais, surtout qu'il s'est fait virer il y a à peu près un an et demi. Donc je vois pas l'intérêt de le virer, il y a à peine un an et demi pour le faire revenir maintenant. Les gens n'ont pas eu le temps vraiment de se lasser, de manquer ce catcheur comme Carlito, comme Kendrick, comme Crime Time, comme...
Honnêtement, je pensais que ça faisait des années qu'il était plus là, quoi.
Ah, il s'est fait virer en même temps que Santino Marella en 2015. Voilà.
D'accord. Et sinon, après, pour les autres, Bailey, elle a déjà catché dans le roster principal.
Enfin, juste en pay-per-view.
En pay-per-view, ouais, donc... Oui, bon, comme je disais au début, je pensais surtout pour détourner un petit peu l'attention et faire parler les gens sur des sujets pour que ce qui va vraiment arriver un petit peu plus tard apparaisse comme une réelle surprise.
D'accord, ben écoute, je pense qu'on a bien traité le sujet. La prochaine nouvelle, ben, c'est Colby qui va nous en parler. Au Performance Center de Floride, la WWE, il y a un nouvel entraîneur. De qui il s'agit, cher Colby?
Eh bien, il s'agit de Shawn Michaels. Donc oui, Shawn Michaels est... Pardon, je rigole tout seul. Donc Shawn Michaels est revenu au Performance Center. Tu rigoles, Nadir?
Ben oui, je suis content d'être avec vous, moi.
Très bien.
Avant chaque pay-per-view, je suis super content d'être avec vous. Donc c'est l'émotion, voilà. Je suis ému.
Donc en fait, Shawn Michaels, il avait officié à plusieurs reprises en tant que... entraîneur, guest, surprise comme ça, un petit peu ponctuel à plusieurs reprises, et maintenant en fait il vient tout récemment d'accepter un rôle d'entraîneur régulier.
D'accord. Et donc, quel sera son rôle précisément?
Comme je viens de le mentionner, un rôle d'entraîneur régulier.
Mais alors, parce qu'à la WWE, au Performance Center, il y a plusieurs types d'entraîneurs. Lui, de quoi il va se focaliser avec ses nouveaux catcheurs?
Ça c'est encore à définir, mais a priori, parce que je pense que Shawn Michaels a plus d'une corde à son arc,
ouais.
Donc je pense qu'il peut aider les catcheurs à peu près à tous les niveaux, hein, sans prendre trop de risques, mais a priori il s'occuperait dans un premier temps de tout ce qui est ce qu'on appelle le finishing group. En fait c'est ce qui correspond
D'accord.
aux lutteurs qui vont bientôt débuter à NXT.
D'accord, donc en gros, tous ceux qui ne sont pas, en gros, c'est pour les préparer à bien se faire voir les premières fois à la télé, plus particulièrement dans l'émission de NXT qui a lieu
Voilà,
tous les mercredis
pour
soir.
Bien policher, pour bien policher un petit peu toute leur approche, qu'elle soit au niveau du personnage, de la musique, de la manière dont ils marchent, de la manière dont ils catchent, quels sont les moves, les prises qu'ils doivent utiliser. À l'époque, donc récemment, c'est jusqu'à ce que lui le remplace, c'était Terry Taylor
Bien sûr.
qui avait ce job, qui avait ce rôle. Malheureusement, à cause d'une opération au cou, il a dû un petit peu de recul. Donc maintenant, c'est Shawn Michaels qui va le remplacer. Et si j'étais débutant ou futur débutant à NXT, je sauterais de joie à l'idée de ce malheureux pour Terry Taylor en remplacement.
D'accord. Et eh ben en parlant de nouveaux catcheurs qui vont signer à la WWE, qui vont peut-être avoir besoin des services de Shawn Michaels, c'en est un qu'on a pu voir dans dans le Cruiserweight Classic, dans lequel on a vu l'excellent Clément Puccio, Tristan Archer. Si tu nous écoutes une fois de plus, salut à toi. Il s'agit de qui, cher Colby? De Jacques. Jacques, comment? J'oublie son nom à
Jacques
chaque fois.
Gallagher.
Jacques Gallagher, qui a fait une très très grosse performance.
Exactement. Pour moi, c'est mon catcheur préféré de tout le Cruiserweight Classic. J'étais très déçu en regardant l'émission de la semaine dernière. Alors, non, c'était cette semaine où il a perdu contre Tozawa. Parce que bien que toute la sphère internet je vais pas dire le mot, sur Jack Saber Jr., Jack Saber Jr., pardon, je pense que en termes de style british, un petit peu hors du commun, qui rajoute un petit peu de piment parce que c'est un style qu'on n'a pas l'habitude de voir, je pense que Zack Sabre Jr. a fait une très mauvaise sortie et que Jack Gallagher, à l'inverse, a fait deux performances en tout cas tout à fait exceptionnelles, exceptionnelles dans le sens où en un clin d'œil, en fait, il a été directement over, donc hyper populaire auprès de la foule. Et son style et la manière dont il catch correspond beaucoup beaucoup plus au style qui est attendu par la WWE, alors que Saber, on le voit, il a son style qui fait à la PWG ou en Europe, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça passe pas tout simplement parce que ça correspond pas à ce qui est attendu de la WWE, de son public, qu'il soit vraiment grand public Raw ou SmackDown, ou alors qu'il soit un petit peu plus averti comme le public de NXT. En tout cas, je suis vraiment très content pour Gallagher parce qu'il a vraiment tout. Il a une super musique, hein. Il est rentré sur une espèce de remix de la Donna Mobile de Pavarotti. Il est blanc comme un cul, encore plus que Sheamus, et il a un slip multicolore fluo. Donc c'est fabuleux. Il a des moustaches aristocrates du début du 20e. Il a une jolie petite mèche qu'il ne manque pas de remettre en place toutes les 5 minutes. Donc moi c'est la star du Cruiserweight classique. Et bien qu'il ait été sorti du tournoi, eh ben ça n'empêche pas qu'il a su montrer de quoi il est capable. Et comme les participants de Toffinoff par exemple qui sont éliminés en cours de route, ça n'empêche pas que derrière les têtes pensantes et les personnes qui prennent des décisions à la WWE voient vraiment où le talent se situe. Et si je ne m'abuse d'ailleurs, c'est pas le premier qui est d'ailleurs annoncé pour la division poids moyen.
Alors, ça, on sait pas. On sait qu'il y a beaucoup de. Je sais pas s'il y a eu des communiqués ou autres.
Ah.
Je sais que là, comme tu viens de le dire, Colby, il va être dans la division Cruiserweight comme Cédric Alexander, comme beaucoup d'autres noms qui vont apparaître dans cette division, puisque la division actuelle à Raw est relativement mince. Pour te rejoindre, c'est vrai que Gallagher a tout. Il a le style sans pour autant être cliché, contrairement aux vaudevillains. Il a un style de catch et surtout une manière de vendre son produit qui est franchement très fort. Et surtout, il a un X factor. Le facteur X, c'est le petit truc. En plus que Zack Sabre Jr. n'a pas. C'est vrai que Sabre Jr., il doit un peu plus peaufiner son alchimie et sa connexion avec le public, contrairement à notre ami Jacques, qui lui est tout simplement bon sur tous les points. Donc c'est vrai que lui est plus employable WWE que l'autre anglais qui a un style de catch à peu près, je dis bien à peu près, similaire. De ton côté, Ishto, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou quel est ton ressenti par rapport à lui ou d'autres participants du Cruiserweight Classic?
Jack Gallagher, j'ai trouvé que Yann avait bien résumé le personnage. En plus, il a l'avantage d'être anglais. C'est quand même un vivier énorme. En plus d'être sur le ring, il a le look, hein, comme Yann l'a dit. Et puis après, c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour Cédric Alexander, que j'ai vraiment trouvé très très bon pendant ces deux matchs du Cruiserweight Classic. Il a marqué énormément de points. Et sinon, moi j'ai envie de dire à nos auditeurs, faites l'amour, Gallagher.
Ça, ouais, ça continue très fort. Hein. C'est la blague. Et surtout, il a le look ça. Coco, c'est sûr, il a le look.
Bref, je suis tout à fait d'accord avec toutes ces nouvelles. On va passer à on parle en même temps là.
Ah, on se marche dessus, comme on dit dans le métier.
C'est pas grave, je prends le dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ishtou, par rapport à Cédric, qui a fait une sortie vraiment exceptionnelle avec Kota Ibushi dans l'émission de la semaine dernière. Donc c'était le 10, l'émission du 10 août.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'était comment dirais-je, j'avais l'impression d'être un petit peu à la ECW, dans une petite salle, un peu comme la ECW Arena. Avec un public survolté, et c'est quelque chose qu'on voit assez rarement à la WWE et qu'on voit uniquement à NXT. Donc et pour cette analogie d'ailleurs, pour les personnes qui découvrent ou qui ne connaissent pas la ECW, je vous invite à aller sur le network parce qu'ils ont récemment publié de plus en plus de shows télé. Donc d'ailleurs, j'ai un de nos comparses d'aventure qui s'appelle Dimby qui découvre aujourd'hui en 2016 la ECW, et c'est vrai que je me suis mis aussi à re-regarder des vieilles émissions. Et si on trouve qu'à NXT ça gueule énormément, je vous invite à regarder la ECW quand c'était à la ECW Arena. C'est comme ça, mais pas uniquement pour un match exceptionnel, c'est du début à la fin du show, et c'est ça fait partie de l'histoire du catch, et il faut vraiment avoir accès à ces trucs pour comprendre un petit peu mieux le catch d'aujourd'hui. Donc voilà, mais tout à fait, Cédric, hop.
Alors si je peux me permettre, juste pour nos fidèles auditeurs, n'hésitez évidemment pas à rejoindre les réseaux sociaux, Twitter, hashtag CNSTP, pour nous dire quel a été votre catcheur préféré pendant le Cruiserweight Classic, quel est votre free agent, votre agent libre parmi tous ceux qu'on a cités, que vous aimeriez voir à la WWE très prochainement sur les écrans. Réagissez sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Ishtou, de faire mon travail. Ça me permet de mieux façonner ma réflexion sur le prochain débat, qui est tout simplement Brock Lesnar, qui est le ultra VIP. C'est même plus le David Guetta de la WWE. Le mec peut tout se permettre. Il peut dire des gros mots à l'antenne, il peut dévier de son script, il peut se doper pour une autre fédération, il peut arriver un petit peu n'importe quand. En gros, il a les marionnettes en main à la WWE. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment intouchable? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas intouchable? Est-ce que vous pensez que justement la WWE le laisse, entre guillemets, avoir cet excès de confiance pour mieux le faire perdre ce soir à SummerSlam? Mais les prédictions de ces galas de catch aura lieu un petit peu plus tard, juste après la pub. Quelles sont vos réactions par rapport à ça, les amis?
Je vais en parler de Brock, parce que moi je suis un fan inconditionnel de Brock Lesnar. Je suis un fan inconditionnel du personnage, et contrairement à énormément de gens, quand la période où il était champion et où il était jamais là, où tout le monde disait ouais, Brock le champion n'est pas là, c'est nul. Brock Lesnar, c'est un produit qui doit rester exceptionnel. C'est la personne qui a battu l'Undertaker, WrestleMania 30, silence de cathédrale, personne ne s'y attendait, mais c'est Undertaker a été battu par cette personne, par Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est une personne qui, quand il est à l'UFC, il a été génial dans tout ce qu'il a fait, et je trouve que si on avait trop de Brock Lesnar, toutes les semaines, le même speak de He-Man, ce serait un petit peu de trop, et Lesnar... Je pense que vous avez tous vu sa rixe avec Heath Slater à Raw. Lesnar, il a juste pris le micro, il a dit wow, 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 et il y a eu une exclamation de foule dans le public. Lesnar, il suffit juste qu'il prenne un micro dans la main ou qu'il fasse trois souplesses pour être over. Moi, je suis par contre sur fan de Lesnar, mais à la différence, j'ai l'impression que la WWE n'en a plus grand chose à secouer de Lesnar, malgré le fait qu'il soit sur la couverture de WWE 2K17. Quand ils ont laissé Orton dévier un peu le script dans le highlight reel de Battlecruit, j'ai trouvé que Orton ait parlé des substances qu'il prenait, j'ai l'impression que la WWE n'en a plus grand chose à fiche de Lesnar, et puis vous allez l'entendre après, évidemment, dans nos superbes pronostics. Je pronostique, malheureusement pour Brock, une défaite contre la Vipère.
Eh bien, je pense, Alain Ichters, que tu as tort.
À 200%.
À 200%. Je pense que Lesnar va gagner.
Restons sur le débat. Les pronostics, on en parlera un petit peu après. Parce que si on retire nos vêtements tout de suite, les femmes voudront plus de nos corps. C'est pareil pour les pronostics. Si on donne nos pronostics tout de suite, plus personne va nous écouter à la fin.
Aïe, 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 aïe.
Eh oui.
Donc, je pense, Ishtou, que tu as tort aussi sur le fait que la WWE n'en ait plus rien à faire de Lesnar. Je pense que tant qu'il fera réagir la foule autant qu'il l'a fait réagir à travers les différents éléments que tu viens de mentionner avec Maestria, je pense qu'il sera toujours de retour parce qu'il fait plus réagir, il fait plus vendre que toutes les autres personnes de la WWE aujourd'hui.
Eh ben, c'est très bien. Pour moi, c'est concis. Je pense que voilà. Les amis, vous avez deux écoles. Vous avez l'école Colby, vous avez l'école Ishtou. Donnez bien sûr vos réactions avec le hashtag CNSTP. Le prochain mini débat, la prochaine chose sur laquelle nous allons parler, c'est le retour de Bill Goldberg. Il a annoncé sur Twitter il n'y a pas très longtemps, il y a 48 heures, que quelque chose de grand allait se passer à SummerSlam. Est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est un coup de promo pour 2K17, un petit peu comme l'a fait Sting il y a 2 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Bill Goldberg va remettre les pieds sur un ring WWE? Ou est-ce que vous pensez que c'est un petit peu le coup du comme un effet de pétard mouillé et qu'il ne se passera pas grand-chose? Ou du moins, s'il se passe quelque chose, ce ne sera pas flamboyant.
Je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Donc, il était à Cologne, en Allemagne, il y a 2 ou 3 jours pour une grande...
Est-ce qu'il a bu de l'eau?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Donc, il a bu de l'eau de Cologne.
Voilà, merci d'expliquer ta très bonne blague pour les personnes qui ne l'auraient pas comprise. Donc voilà, toujours est-il qu'il a dit qu'il prendrait un avion aujourd'hui même pour New York et qu'il peut pas trop en dire plus, mais que voilà, il faut jamais dire jamais. Et par rapport à ta question, Nadir, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Toutes les réponses qu'on serait amené à donner, que ce soit moi ou Ishtou, ce serait de la pure spéculation. Donc simplement ne jamais dire jamais, parce que ça reste le catch. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Est-ce qu'il peut revenir? De toute évidence, oui. Contre qui? On ne sait pas trop. Tout le monde voudrait que ce soit Lesnar. Enfin voilà, c'est très complexe. Mais aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt et que ça ne fait que c'est que de la spéculation. Il n'y a pas vraiment d'analyse ou de réflexion à avoir.
Bah, la spéculation, c'est pas vraiment de la spéculation. Il faut savoir que le jeu 2K17 où il y a Goldberg sort dans 2 mois. Quand Sting est revenu, il est revenu en juillet 2015. Là, on est en août, donc il y a quelques mois de la sortie du. Donc, est-ce que c'est vraiment de la spéculation? Est-ce que c'est pas tout simplement un coup marketing qui serait très bienvenu avec un one shot, avec l'arrivée surprise de Goldberg seulement une fois? La spéculation, je pense que c'est un grand mot. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ishtou?
Moi, j'en pense qu'il y a bizarrement, il y a beaucoup de fans un petit peu plus jeunes que nous, donc qui n'ont pas spécialement connu Goldberg cette rente glorieuse, qui attendent avec impatience le retour de Goldberg. Je salue d'ailleurs Stéphane du Temple du Catch, qui est un fidèle auditeur. Je lui avais promis que je lui passerais un petit coucou, je lui passe maintenant. Goldberg, je trouve que je pense que ça ne marcherait pas. De voir Goldberg revenir maintenant, ça ne marcherait pas. Maintenant, c'est un personnage qui reste magique, avec une musique d'entrée fabuleuse, une entrée géniale. Mais est-ce que Berg qui revient à la WWE, ce serait une bonne valeur ajoutée? Ça, j'en doute un petit peu. Mais en tout cas, je sais que si, d'après ce que dit mon cher collaborateur Ian Colby, si pour être dans les plans de la WWE, il faut juste faire crier les foules, je pense que dans ce cas-là, Goldberg pourrait être placé au même niveau que Lesnar.
Pour juste conclure ce débat, parce que je pense qu'il faut qu'on accélère un tout petit peu, le gros problème que je verrais avec Goldberg, c'est que au niveau de son personnage et de qui il était et qui il incarnait, il y avait une dimension physique qui était omniprésente. Et 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, je ne sais pas à quoi il ressemble en slip noir. Et s'il ressemble pas de très près à ce à quoi il ressemblait il y a 15 ans, ça risque de faire un gros gros flop.
C'est pas faux. Ce n'est pas faux, faut voir. Après voilà, Goldberg c'est Goldberg. Il a aussi un très très beau physique là. On l'a pas encore vu en tenue de catch hein, malheureusement. Je n'ai pas suivi les photos ni l'évolution de son corps. En tout cas, Goldberg reste Goldberg. Et voilà. Donc, bref. Donc on a donné nos avis par rapport à ce qui s'est passé pour Brock Lesnar. Et pour Goldberg, les amis, on va faire une petite pause de publicité. On revient d'ici quelques instants. Il y aura bien entendu le qui a dit, dans lequel Colby et Ishtou vont se battre dans un duel fratricide. Et bien entendu, il y aura nos pronostics pour SummerSlam. On va parler de Neville, de Cesaro, enfin bref, de tout le monde, de toutes les personnes qui sont sur la carte. Est-ce que Lesnar va gagner? Est-ce que Baylor va remporter la ceinture? Est-ce que Seth Rollins va remporter l'Universal Championship? Est-ce que Dean Ambrose? Est-ce que Dolph Ziggler va remporter le titre WWE? Toutes les réponses à ces questions d'ici quelques instants. À tout de suite.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.
Et nous sommes de retour dans Catch Nous si tu peux. L'émission numéro 8, ça fait déjà 8 mois, presque une période totale de gestation pour la femme. Voilà, donc on va commencer le qui a dit. Je vais prononcer une phrase. Ishtu ou Ian Colby devront trouver qui a prononcé, qui a dit cette phrase. On va commencer tout de suite. Vous êtes prêts?
Oui. Allez, vas-y, balance tout.
Si vous êtes prêts aussi, derrière votre ordinateur ou derrière votre téléphone, donnez vos réponses sur l'hashtag CNSTP. Vous devez être dur pour être un pro wrestler. Mais est-ce que vous avez besoin d'être dur pour être dans ce locker room WWE? Plus maintenant. C'est un monde différent et un business différent de quand j'ai commencé et quand j'étais encore. Qui a prononcé cette phrase?
Flair.
Pardon, Ric Flair? Non.
Batista?
Non.
Undertaker?
Non plus. Vous les amis, si vous avez une petite idée, réagissez, hashtag CNSTP.
Kevin Nash.
Baron Von Raschke?
Non.
Ahmed Johnson?
Non plus. Scott, c'est une personne, voilà, elle participe très, enfin elle participe, on la cite très souvent dans le qui a dit chaque mois.
Booker T?
Non.
CM Punk?
Absolument, CM Punk a prononcé ça il y a quelques semaines pour une interview, donc apparemment maintenant il suffit plus d'être un gros dur dans, pour pouvoir survivre dans le locker room, dans les vestiaires de la WWE. Donc un point pour Ishtu. Deuxième citation, attendez bien la fin de la phrase pour pouvoir donner votre réponse, pardon, Colby et Ishtu. C'est parti. Les anciens sont des légendes. Ric Flair est une légende, les McMahon aussi. Mais John Cena, il a 40 ans, il se balade avec un t-shirt orange fluo en disant qu'on ne peut pas le voir. Mais on peut le voir, c'est un enculé de gros, gras.
C'est Conor McGregor. Conor McGregor.
Absolument, bonne réponse. Le combattant de l'UFC a prononcé ça. Il a aussi, voilà, le mois dernier, il y a eu toute une polémique sur ses propos relativement durs envers le catch et les catcheurs de la WWE. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dessus ou bien ça sert à rien d'attiser quelque chose qui au final ne mènera pas à grand chose?
Ça sert à rien.
C'est une star. C'est une star, Conor McGregor.
Ben voilà. C'est une star de l'UFC, donc on va dire non quand même.
C'est une star de l'UFC qui a compris que c'est en faisant que c'est pendant les promos et les déclarations ça sur les réseaux sociaux qu'on pouvait devenir encore une meilleure star malgré la défaite qu'il avait subie à l'UFC il y a, je crois que c'était l'année dernière ou début d'année, les puristes me corrigeront, mais moi j'ai trouvé ça, même s'il crache un petit peu sur le milieu du catch, je trouve que cette sortie était habile de la part de Conor McGregor.
C'est vrai, parce que indéniablement, s'il crache sur la WWE, les fans de la WWE catch vont se dire, même s'ils ne le connaissent pas, ils vont se dire, c'est qui ce mec? Ils vont commencer à regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet, ils vont commencer à voir ce qui se passe entre l'UFC et la WWE, et automatiquement, et bêtement et simplement, le fan lambda de la WWE va se dire « bah tiens, je vais regarder un de ces matchs ». Et il va tout simplement agripper l'audience et le public WWE. C'est pas si bête que ça, et je pense que la WWE, du moins certains de ses catcheurs, sont tombés bêtement et purement dans le panneau. Prochaine citation. Les squash match, donc pour préciser, les squash match, c'est seulement un match où les matchs récents de Braun Strowman où il éclate
avec des raquettes.
Voilà, un match raquette. Voilà, donc les squash match sont pour moi destinés à mettre en avant les personnalités. Alors oui, il ne sert qu'à une seule personne qui bat notre gars, mais l'important c'est ce qu'il fait et comment. Il présente ses moves et permet aux gens de voir ce qu'il sait faire et avec quel style il va lutter.
Payback?
Non. Ripoman?
Non.
Payback?
Non plus.
Skinner?
Pardon?
Le Skinner?
Non plus.
C'est un catcheur qui a...
Ça a été prononcé en quelle année? Parce que si c'était il y a longtemps, c'est peut-être Yokozuna.
Non, en 2016.
Ah, en 2016.
Laisse-moi parler. Est-ce que c'est un catcheur qui avait l'habitude de faire des squash matchs?
Il en a fait, il y a très longtemps. Et parfois, c'était même lui la victime.
Ah, Jeff Hardy?
Non.
Iron Mike Sharp?
Non.
George Hackenschmidt?
Non. Est-ce que vous séchez? Si vous séchez, on va laisser les auditeurs trouver ça et on donnera la réponse à la fin de l'émission, d'accord?
Allez, on continue.
Avec plaisir.
Allez,
prochaine phrase de qui a dit: Kevin Owens est dans ma shortlist pour le titre de MVP de la WWE. Il ne sort pas seulement de grandes performances sur des bases régulières, avec notamment un MOTY, je ne sais pas ce que ça veut dire, potentiel à Battleground contre...
Ça veut dire Match of the Year.
Match of the Year, bien sûr. Avec notamment un Match of the Year potentiel à Battleground contre Sami Zayn. Peu importe la situation, il est au top, que ce soit lors des interviews en coulisses, en tant que commentateur ou dans ses interactions avec les autres superstars. Sa nouvelle association avec Chris Jericho promet énormément. Si on leur laisse le temps, tout cela provenant d'un gars qui n'avait pas le look pour être une WWE superstar. Une situation que je connais un peu.
Alors, donc ce serait un catcheur qui n'avait pas le look pour être une superstar. Taz?
Non, la réflexion est bonne. Un ancien de la ECW.
Tommy Dreamer?
Non, il a été à la ECW.
Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut rien dire.
Un ancien de la ECW qui a catché à la WWE?
Qui est actuellement la WWE.
D'accord, Mike Awesome.
Oh, c'est méchant. Merci.
Non, ce n'est pas lui.
Il
est sous contrat WWE.
Polyman?
Non.
Big Show?
Non.
Quand tu parles de CW, c'est la vraie ou le...
La vraie, l'authentique.
Voilà. Rob Van Damme?
Rob Van Damme?
Non. Bah non.
Pourquoi bah non?
Bah il avait un look WWE Superstar, Rob Van Damme.
Oui, d'accord. C'est vrai.
Spike Dudley?
Non. Il a du ventre.
Boubaré?
Quoi? Il a du ventre.
Boubaré Dudley?
Non.
Kamala?
Non plus. Bon, allez, dernier indice, je vais être sympa. Il lui manque un bout d'oreille.
Vas-y, Yann, t'as pas de point.
Il lui manque un bout d'oreille.
Cactus Jack.
Mick Foley, voilà.
Ah, ouais, tout simplement. Tiens, voilà.
Tout simplement, Mick Foley a prononcé ça par rapport à Kevin Owens, qui le louange, comme on vient de le voir. Donc, ça fait du 2-1.
Ouais.
Ça fait du 2-1 pour Ishtou, et on va se départager ou non sur cette dernière phrase.
Bah, de toute façon, ou non, parce que 3-1 ou 2-2. Donc,
Voilà, ben, les personnes qui écoutent l'émission choisiront avec le hashtag CNSTP qui a été le meilleur des deux. Voilà, le mec se rattrape à tout ce qu'il peut. Je me souviens étant jeune avec... Alors, déjà la traduction n'est pas bonne. Je me souviens étant jeune avoir vu The Rock faire des promos du genre et qui était horrible, traitant tout le monde de loser et autres. Il était tellement marrant que quand il faisait cela, que vous vous attendiez impatiemment qu'il vienne s'en prendre à vous. C'est comme cela qu'il est devenu babyface, donc gentil. Je pense qu'il y avait une opportunité pour faire tourner... nom du personnage, donc du catcher.
Xavier Woods?
Non.
Dolph Ziggler?
Je ne dis pas que j'avais atteint le niveau de The Rock, mais il y avait évidemment moyen de faire quelque chose de différent et qui m'aurait permis de rester motivé pour ce que je faisais lors du show. Je pense
Damien
avoir
Sendo.
Raté une opportunité, pour être honnête. La traduction
Damien Sendo?
Non.
Est-ce qu'il catche toujours à la WWE?
Non, il est parti. Cette année.
Damien Sandow?
Non.
Cody Rhodes?
Non.
Ryback?
Non.
C'est un catcheur qui avait déconné au micro?
Alors, qui avait déconné au micro? Non, il était très bon au micro. Il était, alors ça va être très simple, il a été King of the Ring.
Wade Barrett.
Exactement, bonne réponse, 3-1. Il a annoncé ça il y a quelques semaines lors d'une interview. Voilà, il dit qu'il aurait pu passer gentil après avoir remporté le King of the Ring. Et voilà, il exprime ses regrets par rapport au booking WWE. 3 pour Ishtou, 1 pour Colby, et on va voir qui a donné la bonne réponse pour la phrase concernant les squash match. Je répète, les squash match lors des shows sont pour moi destinés à mettre en avant les personnalités. Alors oui, il ne sert qu'à une seule personne qui bat un autre gars, mais l'important, c'est ce qu'il fait et comment il présente ses moves et permet aux gens de voir ce qu'il sait faire, avec quel style il va lutter. C'était tout simplement Triple H. On va tout simplement partir sur la carte de SummerSlam. On va donner nos pronostics maintenant. L'émission, elle va bientôt se terminer. Le kick-off aux États-Unis a déjà commencé. Et ça commence à 1h10 du matin sur AB1 avec Philippe Chéreau et Christophe Ajus qui sont à Brooklyn, au Barclays Center. Donc c'est pas n'importe quoi, les amis. Le premier match, c'est Alpha Male, c'est American Alpha plutôt, pardon, avec les Hype Bros, donc Zack Ryder et Mojo Rawley, et les Usos contre les Vaudevillains, Breezango et Ascension, qui va être bien entendu un match pour le kick-off. Qui va remporter ce match selon vous?
Les Faces.
Les Faces aussi, ouais.
Les gens disent donc American Alpha, Hype Bros et les Usos. On passe tout de suite, prochain match. C'est un match plus ou moins surprenant qui a été signé il y a à peine quelques jours. C'est Neville et Sami Zayn contre les Dudley Boys.
Zayn et Neville.
Incontestablement oui, et je trouve honteux que Sami Zayn ne soit pas dans la carte de SummerSlam.
Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comme toi, et il y a Dave Meltzer qui dit tout simplement « Calmez-vous, c'est du long terme avec Sami Zayn, donc ça sert à rien de s'emballer. S'il n'est pas sur la carte maintenant de SummerSlam, alors qu'il a donné un match exceptionnel à Battleground face à Kevin Owens. »
Si Dave Meltzer l'a dit, alors...
Pardon ?
Si Meltzer l'a dit, alors...
Ah bah c'est Meltzer, c'est pas n'importe qui.
Ouais, enfin bon.
Notre ami Meltzer, bien sûr. Donc Neville et Sami Zayn, donc pour l'instant, que des gentils qui remportent le combat. Prochain match, Cesaro face à Sheamus.
Donc c'est Cesaro. Le premier, on rappelle pour nos auditeurs, c'est le premier d'une série de 7 matchs entre Cesaro et Sheamus, décidé à Raw par Mick Foley, qui va, et pour enfin départager Cesaro et Sheamus. Et moi, je pense que le premier match va être gagné par Sheamus.
Pour toi, cher Colby.
Alors, l'histoire du meilleur des 7 matchs, comme Booker T contre Chris Benoit à la WCW en 1998, je pense aussi que le Hill va gagner le premier match, donc Sheamus aussi.
Sheamus aussi, très très bonne réflexion. Je pense aussi que Sheamus va remporter ce combat pour avoir une revanche peut-être avec Cesaro le lendemain à Raw ou peut-être à SmackDown ou je ne sais pas. Prochain, attendez, Sheamus il a Raw, SmackDown il a Raw.
Oui, il a
les deux fois à Raw, donc ça restera du côté de la branche rouge. Donc Sheamus remportera ce premier combat. Prochain match, Carmella, Becky Lynch et Naomi qui a fait son retour il y a une semaine face à Natalia, on te le fait à la russe, si tu veux. Natalia, Alexa Bliss et normalement Eva Marie, mais qui a été supprimée de ce match puisqu'elle a été suspendue 30 jours. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre seulement maintenant, on l'a répété, on l'a dit en début d'émission, qu'Alberto Del Rio, Paige et Eva Marie ont été suspendus 30 jours de la WWE. Donc qui va prendre la place d'Eva Marie dans ce combat?
Alors, c'est à titre d'information, sur le site officiel de la WWE, ils mettent ça en match handicap. Je pense franchement qu'il y aura un troisième partenaire, un troisième partenaire chez les Hill, mais pour l'instant, elles ne sont que deux. Et qui pour remplacer Eva Marie dans cette liste? Excellente question. Donc peut-être qu'il partirait quand même sur un match handicap, mais je vois quand même Carmella, Becky Lynch et Naomi gagner.
D'accord. De ton côté, cher ami Colby.
Eh bien, comme le mois dernier, c'est du catch de femmes, donc allez, je veux dire comme Ishtou, les Carmella et compagnie.
Très bien, moi je pense qu'au contraire, on va avoir un gros nom d'Anixé Yaki en NXT méchante. Azuka, elle est face ou elle est méchante?
En ce moment, elle est surtout championne et elle est surtout heel vu qu'elle va.
Je pense qu'ils peuvent la faire monter juste pour un match, comme ils ont fait avec Bayley le mois dernier.
Bah, à ce moment-là, ils vont plutôt mettre Nia Jax qui pourra profiter.
Je peux me permettre, Nia Jax est à Raw et c'est pour la division féminine de SmackDown.
Ah, d'accord, mais comme je regarde pas le catch de femme.
tu devrais, Yann.
Non, ça va,
on verra. En tout cas, une chose est sûre. Normal. Alors, pour vous, ce sont les gentils qui gagnent. Donc, Carmella, Becky Lynch et Naomi. Pour moi, je pense que ça va être les méchantes. Natalia, Alexa Bliss et peut-être la troisième participante qui vont remporter ce combat. Prochain combat pour la ceinture intercontinentale de Miz et sa femme, Maryse Wallet, qui va faire face à Apollo Crews, l'homme qui a sans doute le moins de charisme en ce moment à SmackDown. Qui va remporter ce combat, les amis, The Miz ou notre ami Apollo Crews?
Crews.
C'est un match vraiment indécis. Je voyais le Miz perdre dans un gros événement, mais je le voyais pas perdre contre Apollo Crews. Donc je pense que le Miz conserve.
Moi, je pense que
je mise tout sur The Miz. Deuxième blague.
Ça va. Donc Miz pour Ishtou. Et pour toi, Colby, Apollo Crews, moi aussi.
Ouais, parce qu'on est à New York aussi, donc les fans, c'est des fans un petit peu connaisseurs hardcore, donc ils veulent que Crews gagne, donc Je pense qu'ils vont lui donner la ceinture.
Ouais, je pense aussi que Cruz va remporter cette ceinture, puisque ça colle aussi un petit peu avec l'esprit. On va donner l'esprit Sekpa. L'esprit, on va donner une chance au dernier de la classe, entre guillemets. Donc à Cruz, je pense qu'il va avoir la ceinture. Prochain match, Enzo Amore, Big Cass face à Chris Jericho et Kevin Owens.
Alors je vais parler en premier et juste avant de donner mon pronostic, dire tout l'amour que j'ai pour cette nouvelle association. Jericho Owens, bon, Owens, tout ce qu'il fait, j'adore. J'adore Jericho, comme je vous l'ai dit le mois dernier. Je trouve qu'il s'éclate en ce moment à la WWE. Il a eu un espèce de renouveau. Et autant je suis un fan inconditionnel de Enzo et Big Cass, mais Owens Jericho, c'est ce qu'on a fait de mieux depuis très longtemps au micro et dans les attitudes. Donc je mettrai une piécette sur Jericho.
Eh bien, la bonne heure, mais tout le monde sur Internet est fou de Kevin Owens et Chris Jericho. Leurs promos depuis deux semaines, elles sont dingues. Ils sont drôles, ils sont pertinents, ils sont complémentaires et ils vont produire quelque chose de dingue.
Je ne vous entends plus, messieurs.
Bizarrement, d'habitude, quand on a deux gros noms comme ça, quand on les met ensemble, ça donne une salade un petit peu dégueulasse, un petit peu comme les anciens du membre de la section d'assaut, pour ceux qui s'en souviennent. Là, c'est vrai que le duo donne quelque chose de très très sympathique et très plaisant à voir, en espérant qu'il puisse prolonger ça sur plusieurs mois. Toi, Colby, selon toi, qui va remporter ce combat ?
Je pense qu'il n'y aura pas de victoire clean, il y aura du rififi pour que ça puisse continuer.
Il y aura du... Pardon ?
Du rififi. Pour que ça puisse continuer dans les semaines, dans les mois à venir.
D'accord, et bien s'il y a du rififi, c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc peut-être un autre contest à voir. Selon moi, je pense que pour justement continuer à apporter du grain à moudre entre Chris Jericho et Kevin Owens, je pense qu'ils devraient perdre ce match. Parce que s'ils sortent une promo le lendemain en perdant, elle sera peut-être, je pense, beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que s'ils remportaient ce combat. Voilà, donc je pense que Jericho et Owens vont perdre ce combat. Prochain combat toutefois, maintenant c'est pour la ceinture par équipe, détenu par The New Day depuis un an, depuis le dernier SummerSlam qui a eu lieu le 23 août 2015. On travaille dans cette émission du travail d'investigation chaque mois pour vous, chers amis. Donc The New Day qui va défendre sa ceinture face à Gallows et Anderson.
J'attends juste que Yann parle pour lui dire le contraire, en fait.
D'accord. Ok, ça marche. Moi, je vais dire New Day parce que je pense que Styles va gagner contre Cena. Donc, ils vont peut-être pas faire gagner tous les membres de la clique. Et à titre personnel, j'aimerais que le New Day soit champion par équipe toute la vie.
Toute la vie, seulement ça. Et donc, et cher Ishtou, de ton côté, tu vas penser l'inverse. Je pense que tu veux que Gallows et Anderson remportent ce combat.
Je ne veux pas que Gallows et Anderson, car un peu comme mon ami Yann, je suis à 100% pour le New Day. Mais j'ai l'impression que la WWE a un petit peu baissé les bras, pardon, avec le New Day, et donc je pense, mon pronostic, c'est Gallows et Anderson.
D'accord, ben c'est à voir, c'est un pronostic intéressant. Donc The New Day pour toi, Colby, Anderson et Gallows pour toi, cher Ishtou. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y aura un no contest. Je pense qu'il va se passer quelque chose et que The New Day va perdre sa ceinture un petit peu après. Je pense qu'ils vont la perdre dans pas très très longtemps. Mais il risquerait de la perdre peut-être à Raw, je sais pas. Mais c'est un match très très dur à pronostiquer. S'il n'y a pas de no contest, j'irai du côté de Gallows Anderson. Voilà. Donc le mec se mouille pas. Prochain combat pour la ceinture féminine qui a été remportée par Sasha Banks lors du Raw une semaine après le draft. Donc c'était le 26 juillet. Le 26 juillet, Sasha Banks a battu Charlotte pour cette ceinture. Elle est maintenant en jeu, Sasha Banks, contre la fille du Nature Boy, Ric Flair. Charlotte, vos pronostics ?
Sasha Banks, incontestable.
Sasha Banks,
pareil.
Pareil. 3 Sasha Banks, 0 Charlotte. On peut passer au prochain match. Vous, les amis, donnez vos pronostics sur l'hashtag CNSTP et aussi sur ma page. parce que j'ai une page maintenant. Nadir Mohamedi, Nadir NADIR, plus loin Mohamedi, M-O-H-A, 2-M-E-D-I sur Facebook. Il y aura très bientôt des cadeaux à gagner.
J'ai une Peugeot 308 à vendre. Si tout le monde fait sa promo perso.
Il y aura les voyages de Colby, très important. Et il y aura bien entendu les cadeaux de Nadir. Donc allez sur cette page, puisque je vous le promets, il y a de très très belles choses qui vont arriver très prochainement. Le prochain combat, c'est Rusev Mashka, US Champ, donc pour la ceinture des États-Unis, Rusev face à Roman Reigns.
Alors moi je vais dire que peu importe qui va gagner, j'aimerais que ce soit Rusev personnellement, je suis un petit peu entre les deux, mais ce que j'attends le plus dans ce match, c'est la bronca que va subir Reigns et les acclamations incessantes que
va subir Rusev.
Dont va bénéficier Rusev, oui, exactement. J'espère évidemment qu'il le massacre un peu à la Mike Awesome, Spike Dudley, etc.
Eh bien, peut-être que là, on risquerait aussi d'avoir un no contest qui permettra de galvaniser la foule pour le match d'après.
Non, moi je ne vois pas Reigns gagner ce match.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il perd ce match, qu'est-ce qu'il fait derrière?
Bah justement, c'est la question. Il va rentrer chez lui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Reigns après? J'ai l'impression qu'il s'est fait prendre main dans le sac, un peu comme nos amis dont on parlait en début d'émission, un petit peu trop tôt, et enfin, surtout pas au bon moment, en fait. Reigns, là, j'ai vraiment peur que, pour l'instant, il mette un petit peu sa carrière entre parenthèses, mais en tout cas, on aura la réponse dans quelques heures maintenant.
Hein, trois heures et demie à peu près.
Voilà, je pense que ce sera pas un des matchs du début non plus. Non, je vois Rusev conserver.
Rusev remporte sa ceinture, mais il va peut-être pas forcément remporter le match. Peut-être Roman Reigns va péter un câble, utiliser une chaise ou quelque chose. Je sais. Mais en tout cas, Rusev repart champion US.
Oui.
Ok. Bah voilà, Rusev repartira à Raw champion US. Le prochain match n'est pas des moindres. Il y a eu deux combats déjà entre ces deux personnes. Une fois, AJ Styles a remporté ce combat. La deuxième fois, c'est John Cena qui a remporté ce combat. C'est John Cena, donc, de champ, mais c'est pas le champ. Donc, John Cena tout court, qui nous vient du Massachusetts. Contre AJ Styles, qui nous vient de Géorgie. C'est le troisième match de cette rivalité. Alors, je me permets de donner mon avis. Voilà, je vois un petit peu AJ Styles va remporter ce combat, je pense. Voilà, puisque on sait que John Cena va avoir un temps très allégé derrière les prochaines semaines. Donc, quel est l'intérêt de le faire gagner si on le voit moins à la télé? Alors qu'AJ Styles doit continuer à faire la promotion, être la tête d'affiche de SmackDown. Quel est votre opinion, les amis?
Je me suis déjà énormément trompé sur les pronostics des matchs de John Cena, notamment lors des derniers WrestleMania où il a participé. Donc, même si je ne verrais pas l'intérêt du tout de le voir perdre, je mets une piécette sur John Cena pendant ce match.
D'accord.
Moi, je vois clairement AJ Styles.
AJ Styles 2, AJ Styles 1, John Cena. Vous donnez vos avis, bien entendu, les amis. Continuez. Il reste 3 matchs sur lesquels on va donner nos avis et on va bientôt se quitter. Donc, profitez-en. Prochain match pour la ceinture WWE du côté de SmackDown. Dean Ambrose de Lunatic Fringe contre Dolph Ziggler. Le show-off, selon vous, une fois de plus, est-ce que Ambrose, ça c'est fort de fruits, va remporter cette ceinture et garder cette ceinture, ou est-ce que c'est Ziggy, je suis folle de lui?
Malheureusement, je pense que c'est Ambrose qui va gagner. Et voilà.
Est-ce que vous pensez qu'Ambrose va se faire siffler?
Je pense qu'il n'y a rien qui ferait plus plaisir Yann qu'une bronca pour Ambrose.
C'est l'expression qui revient très très fort, la bronca.
Oui,
ça n'a jamais disparu de notre vernaculaire.
Non, mais je trouve ça très bien d'avoir relancé Dolph Ziggler de tous les 6 participants pour le poste de challenger numéro 1. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de monde qui aurait mis une pièce sur Ziggler. Je trouve ça très bien de lui redonner sa chance. Le match, Ziggler va porter le match. Il va être très bon, mais je pense que Ambrose conserve.
Oui, tout à fait. Tu as entièrement raison, Alain, et malheureusement, je suis même pas sûr que la foule new-yorkaise, qui est toujours à contre-courant de l'establishment, réserve un accueil difficile à Ambrose. J'ai peur que, de par son passé sur la scène indépendante, il continue de l'acclamer.
À voir. Donc Dean Ambrose garde sa ceinture. Et enfin, Bon, on va parler déjà de Brock Lesnar, après on parlera de la ceinture universelle. Brock Lesnar contre Randy Orton, on a un petit peu parlé en début d'émission. Toi, Colby, tu étais du côté de Randy Orton.
Et absolument
toi...
pas.
Ah non, de Brock Lesnar, pardon, donc j'avais une chance sur deux. Et toi, Ishtou, t'étais beaucoup plus du côté de Randy Orton.
Absolument pas. Non, non, effectivement, moi j'avais pronostiqué la victoire de. J'avais pronostiqué la victoire de Orton, pardon.
Très bien, super victoire de Orton face à Lesnar. Et donc, toi, Colby, tu penses que Brock Lesnar va remporter ce match?
Oui.
Merci. Voilà. Mais je pense que Orton va remporter ce match. Voilà. Mais voilà. Merci. Mais donc, ça fait. Donc, voilà. On attendra ces prochaines heures pour voir. L'issue de ce match, et enfin pour moi c'est le match le plus important de cette carte, c'est Finn Balor, puisqu'il y a un accent grave, sur le A face à Seth Rollins pour la ceinture universelle de la WWE, qui remportera ce combat, les amis, et pourquoi ?
Bon bah je vais faire Marthe en premier
Tony Biasi, 1979, les matchs en cage,
Vas-y. Vous avouerez, chers auditeurs, que Yann fait quand même très très bien le smart. Je vais essayer de me mouiller un petit peu. Une intervention de Gallows et Anderson pour reformer le club, allez.
On va laisser Nadir reprendre ses esprits.
Donc j'ai pas très bien entendu en fait. Enfin j'ai pas écouté. Je suis désolé.
Oui, mais personne n'a écouté, je pense.
Monsieur.
Donc qui va remporter ce match entre Balor et Rollins?
Balor grâce à Gallows et Anderson.
Ça c'est ça le problème, c'est que depuis l'arrivée de AJ Styles, Gallows et Anderson, on a tout le temps l'impression que le club va se reformer à un moment ou à un autre. Le problème c'est que là Balor, il a une identité tellement forte qu'il a pas besoin de l'image de club. Il a son alter ego qui est le démon, il a Finn Balor. Donc l'image qu'il procure et l'image qu'il vend est tellement forte que est-ce qu'ils ont besoin de faire venir le club dans ça?
Non.
Pour moi non, mais il faut bien pronostiquer quelque chose.
Donc pour toi c'est Balor avec deux clubs et ton côté Calbi.
Moi, alors je vais tout de suite être clair. Hein. Finn Balor, pour moi, c'est un petit peu le Dean Ambrose du pauvre, sauf qu'il a un petit peu de maquillage. Donc, je pense qu'il va gagner, oui, parce que Seth Rollins maintenant, je pense que son personnage est assez ancré dans les consciences pour qu'il puisse perdre un match sans que ça le heurte vraiment. Et Finn Balor, au contraire, lui a vraiment besoin d'une victoire aussi importante que le premier champion universel de la WWE pour vraiment s'imposer en tant que big name de la compagnie. Mais je le supporte pas, donc...
Alors, je vais être contre vous, les amis. Je pense que Rollins va remporter ce combat.
Aïe, 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 divergence d'opinion.
Divergence, ouf. Divergence d'opinion, pourquoi? Parce que Finn Balor, je pense que voilà, ça va être l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Ils l'ont fait venir, ils le mettent en main event de SummerSlam face à Rollins. Mais en vrai, c'est bête, hein, mais on sait pertinemment je le vois pas durer 4, 5, 6 ans. Je le vois pas durer dans le long terme. Contrairement à Rollins, qui lui peut être premier champion NXT et premier champion universal. Donc, marteler un petit peu son personnage qui est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment, façon de parler, un petit peu comme Chris Jericho en 2001.
Oui, c'est une bonne analyse que tu nous as servi là, Nadir.
Voilà, c'est tout ça. Moi, je pense que Rollins va repartir de ce gars-là avec la ceinture universelle. Donc voilà, les amis, les pronostics pour SummerSlam sont terminés. On va bientôt se quitter. On va juste vous donner une petite date, puisqu'ils sont très très peu à communiquer, malheureusement, leur date sur Internet. En tout cas, on sait que la Fédération Française de Catch Professionnel, tenue par Monsieur Marc Mercier, tiendra, ils seront dans les arènes de Beaurenard, 4000 places, vous vous rendez compte?
Les arènes de Beaurenard!
De Beaurenard, 15€ pour les plus de 12 ans, si vous avez moins de 12 ans, c'est gratuit, donc 4000 places le fin de 6 août, donc c'est la semaine prochaine, les amis, c'est...
Nadir, moitié prix pour les aveugles.
Voilà.
Nadir, est-ce que c'est un gala de catch ou un showcase? Parce qu'il faut faire la différence quand même entre les deux, hein.
Ah, il faudrait que tu prennes ton dictionnaire, mec. Tu vois, et que t'ailles regarder la différence entre gala et showcase.
Le fromage froid, comme on l'appelle. Non, le fromage chaud, d'ailleurs.
Non, les superstars du catch. Ouvrirons le bal du super show.
C'est une belle tradition qu'à chaque fois nos émissions se terminent en fou rire, quand même.
Le 26 août, dans les arènes, pas la même, c'est fait. Avec, bien entendu, on les salue, hein, Tom Laroufa, avec le Tom Fight Challenge. Tristan Archer, qu'on salue. Hugo Perez, mon ami, qui vient de temps en temps dans nos émissions. Pauline. Voilà, donc Château Renard, 4000 places. Est-ce que un gala de catch français a rempli 4000 places ces 50 dernières années?
On salue l'effort,
en tout cas. Mais
on a rigolé maintenant, mais vraiment on salue l'effort de la Fédération française de catch professionnel.
C'est vrai. Non. Mais en plus, je rigolais pas pour ça. C'est juste la phrase qui était drôle. Voilà. Bah écoutez, les amis, on va se quitter. Ça y est, c'est l'heure. Merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Merci Colby.
Eh ben de rien, et on se donne rendez-vous le 11 septembre pour Backlash.
Backlash, on verra si nous sommes encore de ce monde.
En direct du Richmond Coliseum.
Si tu peux exister encore.
D'accord, très bien.
Pardon, dis-moi.
Non, je disais en direct du Richmond Coliseum de Richmond en Virginie.
Eh oui, Virginie, bien sûr, Virginie. Salut à toutes les Virginies. Virginie qui est avec moi.
Mais j'attendais que tu me dises au revoir, moi.
Bah salut Virginie, et bien sûr, qui dit Virginie dit Alain, et qui dit Alain dit le marquis de Strasbourg. Merci Strasbourg.
Merci à tous, et puis j'espère vous retrouver très très bientôt, et c'est toujours un plaisir que de partager cette heure catchesque à vos côtés, les amis.
Eh ben merci vraiment à vous tous de nous avoir suivis pendant cette émission. Donc comme l'a dit notre ami Colby, on se retrouve en septembre pour Backlash. D'ici là, portez-vous bien, toujours réagissez avec le hashtag CNSTP, envoyez vos messages aussi sur le site de Radio Kawa, sur la page de l'émission, envoyez des messages aussi sur iTunes, commentez, donnez des notes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes les critiques sont bonnes à prendre, restez connectés, on se retrouve demain en podcast, et on va se quitter avec notre ami Colby et sa belle imitation de Francky Vincent. Apportez-vous bien, à très bientôt, ciao.
À toi bientôt, le monde.
On pourrait faire une pub pour Getting to Know You, mais là j'ai la flemme.
Ça peut être ça notre pub, non?
Ouais.
Getting to Know You sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.